Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Ainsi soit-il.
Dites aux pusillanimes, prenez courage et ne craignez point, car notre Dieu, voici notre Dieu qui viendra et il nous sauvera. Mes très chers frères, en ce troisième dimanche de l'Avent, que la coutume liturgique veut marquer des signes d'un certain allègement relatif de notre pénitence, en ce troisième dimanche de l'Avent, dis-je, sachons ouvrir nos oreilles à la parole de Dieu. Saint Paul nous dit, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur en tout temps, je vous le dis à nouveau, réjouissez-vous. Sachons ouvrir nos oreilles, mes très chers frères, à la parole de Dieu. Car la joie dont il est question aujourd'hui n'est perceptible, n'est compréhensible, n'est accessible qu'à l'homme spirituel. Alors nous avons plusieurs choses à voir aujourd'hui avec l'aide du Saint-Esprit, qui sont les suivantes. Premièrement, nous verrons quelques-unes des raisons de la joie chrétienne, spécialement dans le contexte des textes de la messe d'aujourd'hui, donc les raisons de la joie chrétienne, qui sont, je vous le dis tout de suite, la raison principale de la joie chrétienne, c'est l'exaucement de la prière. Et donc, nous verrons, dans la foulée, quelle attitude générale nous devons adopter pour pouvoir être exaucés. Notre deuxième point consistera en ceci, c'est que nous verrons quelque chose, un enseignement sur la prière chrétienne, sur ses caractéristiques, quelques erreurs courantes que nous faisons, que nous sommes parfois tentés de faire, et nous verrons quelques-unes des conditions pour être guidés par Dieu, telles que les textes de la messe nous les enseignent aujourd'hui. Et nous terminerons en troisième point par en voyant les conditions pour être exaucés. Nous verrons où notre combat doit se porter et comment le chrétien est fort et nous verrons comment le chrétien donc est fort. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
Écoutez encore une fois cette épître. Elle n'est pas très longue, mais elle est extrêmement condensée. Mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur en tout temps. Je le dis de nouveau, réjouissez-vous, que votre modération soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Réjouissez-vous en tout temps. Réjouissez-vous dans le Seigneur. C'est le dimanche de Gaudete, nous nous réjouissons. Le même apôtre qui nous fait un commandement de la joie aujourd'hui nous interdit par ailleurs, dans une autre épître, le badinage, la bouffonnerie, les paroles légères, les paroles insensées, qui sont des signes et des causes de joie dans le monde. Nous savons que nous ne pouvons être heureux, joyeux dans le monde, du moins joyeux dans le monde, sans plaisanter, sans rire, sans faire des boutades et autres paroles drôles, de telle sorte qu'on mette la bonne humeur. Il y a des gens qui sont moroses par nature, et puis qui plombent les conversations, et il y a des gens qui, par nature, sont des bouts en train, comme on dit, et qui ont toujours le mot pour rire, de telle sorte que à leur contact, tout le monde se sent dans la joie, ne serait-ce que pour un certain temps. Le même apôtre qui nous fait un devoir de nous réjouir dans le Seigneur en tout temps, nous interdit toutes ces choses. Selon cette parole du psaume, que le Seigneur n'est adoré que par un peuple grave. Grave, c'est-à-dire aux mœurs austères, au visage composé, grave, pas malade ou désagréable, mais un peuple grave. C'est-à-dire un peuple qui ne s'adonne pas à la bouffonnerie ou aux paroles incongrues, parce que, comme dit l'Écriture sainte, nous devrons rendre compte de toutes les paroles qui sont sorties de notre bouche. Et aujourd'hui, saint Paul nous dit, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur en tout temps. Et il le répète, je le dis à nouveau, réjouissez-vous. Nous l'avons dit, mes très chers frères, il ne faut pas chercher très loin la cause de la joie du chrétien. Le chrétien ne se réjouit pas selon les hommes, même si le chrétien est toujours de bonne humeur, mais le chrétien ne se réjouit pas selon les hommes, il se réjouit dans le Seigneur en tout temps. Donc, vous voyez, lorsque les hommes se réjouissent, ils se réjouissent sporadiquement. Entre deux tristesses, ils se réjouissent. Le chrétien, lui, a pour commandement de se réjouir dans le Seigneur en tout temps. Alors vous allez dire, mais on ne peut pas, qu'on soit dans le monde ou qu'on soit chrétien, on ne peut pas s'improviser heureux. On ne peut pas s'improviser joyeux, gai. Il faut avoir une raison. Et donc, effectivement, quand vous avez des gens qui sont un peu tristounets, ou vous avez leur ami qui vient, qui dit une bêtise, une boutade, etc., ça fait rire tout le monde, ça détend, et ceci constitue une cause de la joie, selon le monde. Même si les chrétiens n'ont pas cette joie-là, il faut que leur joie ait une cause. Et nous avons dit que la cause de la joie du Seigneur, de la joie du chrétien, c'est le fait qu'il est exaucé. Alors vous allez dire, oui, mais je prie et je ne suis pas exaucé. C'est justement pour cela que bien souvent le chrétien est triste. Mais le chrétien n'a pas le droit d'être triste. Pourquoi? Parce que saint Paul lui fait un commandement, il lui dit, réjouissez-vous dans le Seigneur en tout temps. N'oublions pas que lorsque nous lisons dans l'Écriture sainte, un impératif, ce n'est pas... Ce n'est pas une façon de parler. C'est-à-dire que l'indicatif est pour la description, l'impératif est pour l'obligation. Si saint Paul nous disait « Il me semble qu'il serait bon de temps en temps que vous soyez dans la joie, etc. » Bon, ben, on pourrait dire « Oui, ben, ce n'est pas le moment. » Mais saint Paul nous dit de la part du Seigneur, parce que c'est plus le Saint-Esprit que saint Paul qui nous parle, « Réjouissez-vous dans le Seigneur en tout temps. » Mais pour se réjouir, il faut avoir une cause de joie. La cause de joie, c'est l'exaucement de nos prières. Vous allez dire, oui, mais je ne suis pas exaucé. C'est que nous prions mal. Et l'enseignement d'aujourd'hui sera justement, dans les textes de la messe, vous allez le voir avec l'aide du Saint-Esprit, mes très chers frères, va être que si nous devons nous réjouir en tout temps dans le Seigneur, c'est parce que nous devons bien prier de telle sorte à pouvoir être exaucé et à pouvoir avoir cette cause de joie. Évidemment, quelqu'un qui prierait mal ne serait pas exaucé et donc ne pourrait pas se réjouir. Mais on ne pourrait pas lui dire, bon, mais vous faites partie des chrétiens auxquels cette règle ne s'applique pas, puisqu'ils n'ont pas de cause de réjouissance. Non, nous devons nous réjouir. C'est comme si saint Paul nous disait, donnez-vous les moyens, de par le Seigneur, de pouvoir vous réjouir dans le Seigneur en tout temps. Et donc c'est un véritable commandement qui nous est donné, ce n'est pas une façon de nous dérider ou une invitation à la joie, c'est un commandement de nous réjouir dans le Seigneur. La réjouissance, la joie, s'oppose à la tristesse. La tristesse vient de l'accomplissement de la volonté propre. Quiconque fait sa volonté propre sera toujours triste, parce que nous le savons très bien, n'importe qui, n'importe quel mécréant pourra en convenir, si... Nous avons un rêve, le rêve le plus, si nous avions un rêve le plus fou que nous aimerions réaliser, et qu'il nous était donné de le réaliser complètement, eh bien, nous serions tristes que nous n'aurions plus d'autres rêves à réaliser, et nous recommencerions à désirer autre chose. Celui qui fait sa volonté propre est condamné à être triste. Si vous voulez vous réjouir, mes très chers frères, alors il faut faire la volonté de Dieu, mais faire la volonté de Dieu, ça s'apprend. Et faire la volonté de Dieu, c'est, nous allons le voir, et c'est ça qui est extrêmement encourageant, c'est ne faire que les choses qui sont utiles pour nous. Réjouissez-vous dans le Seigneur en tout temps. Allons un peu plus loin. Il y a un temps pour tout, dit Salomon. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se réjouir. Il y a un temps pour tout, et c'est toujours le temps pour le chrétien de se réjouir. Alors, nous l'avons dit, la cause de la joie du chrétien, c'est son exaucement. Et quoi de mieux qu'une oraison d'une messe d'un dimanche pour apprendre à prier une prière qui peut être exaucée. Si nous prions spontanément en n'importe quoi et dans n'importe quel terme, il y a de fortes chances que nous ne soyons pas exaucés. Mais si nous voulons être exaucés afin de pouvoir obéir au commandement de nous réjouir en tout temps dans le Seigneur, alors il nous faut apprendre à prier. Écoutez l'oraison d'aujourd'hui, l'oraison collecte d'aujourd'hui, troisième dimanche de l'Avent, elle est très simple et extrêmement profonde. Prêtez l'oreille, Seigneur, à nos prières et venez par votre présence pénétrer de clarté les ténèbres de notre esprit. Voilà, c'est tout. Prêtez l'oreille, Seigneur, à nos prières et venez par votre présence pénétrer de clarté les ténèbres de notre esprit. Si nous étions capables de prier cette prière dans l'esprit de l'Église, c'est-à-dire d'en comprendre chaque mot, de peser chacun de ces mots au poids du sanctuaire et de les faire nôtres, ces mots, de telle sorte que notre intention soit totalement dans les mots, dans les paroles que nous prononçons, alors véritablement nous pourrions nous réjouir en tout temps dans le Seigneur, mes très chers frères. Orem tuam quesumus domine, precibus nostris accommoda. Le verbe ici que nous utilisons à l'impératif pour nous adresser au Seigneur, pour lui demander quelque chose, c'est le mot accommoda en latin. En français, ça a donné le mot accommoder, accommodement. Alors, vous allez dire, qu'est-ce que ça veut dire? Justement, les commentateurs qui ont commenté cette oraison nous disent que l'Église nous fait parler ici, et nous devons être sensibles à cela parce que c'est à la fois un grand privilège et il ne faut pas en abuser. Elle nous fait parler au Seigneur avec une sainte familiarité. Parce que accommoda ne veut pas simplement dire simplement prêter l'oreille, même si la traduction est bonne, mais ça veut dire, très précisément, si vous voulez, ça veut dire prêter l'oreille comme il faut, pour bien entendre et ne rien perdre. C'est comme si nous lui disions, Seigneur Dieu, accommodez votre prière à ma votre oreille à ma prière. Alors, en français, ça ne veut pas dire grand-chose, mais ça veut dire, si nous lui disions, prêtez l'oreille, Seigneur, s'il vous plaît, quand même, prêtez l'oreille comme il faut, accommoda orem tuam, c'est-à-dire, mettez votre oreille de telle sorte que vous puissiez entendre totalement ma prière. Quelle sainte familiarité! Qui oserait dire ça à un prince, à un roi? Est-ce qu'un enfant dit ça à ses parents tout le temps, chaque fois qu'il leur parle? Des fois, un petit enfant s'approche de sa maman ou de son papa et dit « Papa, maman, écoute-moi bien, je voudrais te dire quelque chose. » Alors, s'il commence à être insolent, évidemment, ce petit exorde va incommoder le papa ou la maman. Mais si le papa ou la maman entend cette pétition au début, il va faire d'autant plus attention aux paroles qui vont suivre, à la demande que le petit enfant va faire. Nous sommes les petits-enfants de Dieu et Dieu est notre Père. Et nous lui disons, l'Église, notre Mère, nous fait dire aujourd'hui à Dieu, Seigneur Dieu, Seigneur, dominé, Seigneur, donc le Seigneur de tout, nous parlons ici à notre Père, mais qui est le roi des rois. Seigneur, s'il vous plaît, quosumus, orem tuam precibus nosis accommoda. Prêtez l'oreille comme il faut pour bien entendre et ne rien perdre de nos paroles. Évidemment, comme nous l'avons dit, ce sont des paroles qui sont d'une très, très grande familiarité, la familiarité d'un enfant de Dieu à son père. Mais enfin, il faut faire attention quand même, parce qu'elles peuvent, comme nous l'avons dit dans l'exemple, elles peuvent tourner à notre confusion. Si nous faisons montre de plaintes amères, si nous disons « Seigneur, écoutez bien ce que je vais dire et ne perdez rien de ce que je vais vous dire. Eh bien, je vais vous dire, votre religion m'embête et il me semble que vous êtes très loin et que vous ne vous bougez pas pour m'aider. » Évidemment, ce n'est pas tout à fait ce qu'il faut dire. Alors vous allez dire « Mais pourtant, c'est ce que je sens, c'est la seule chose que je sens que je me dis. » Alors, il faut le dire sur le bon ton. Regardez les psaumes qui nous enseignent à prier, nous y reviendrons dans un instant. Il y a des paroles qui sont parfois très familières envers Dieu, mais elles sont dites sur le bon ton. L'essentiel, ce n'est pas de garder un certain décorum vis-à-vis de Dieu pour que Dieu ait une bonne impression de nous, etc. Ce n'est pas cela. Il faut parler comme un enfant parle à sa mère, à son père. Mais il faut que cet enfant que les paroles de cet enfant soient audibles. Donc il faut qu'elles soient bien dites. Non pas des plaintes amères, mais des plaintes tout court. Dieu n'en perd rien. Si nous n'avons qu'à nous plaindre à Dieu, si nous ne pouvons que nous plaindre des circonstances, des choses qui nous arrivent, plaignons-nous, mais plaignons-nous en sachant que Dieu ne perd aucune de nos paroles. Vous allez dire, oui, mais alors donc du coup je préférerais aller me plaindre loin des oreilles de Dieu. Alors ça ne servirait strictement à rien et nous tomberions dans le désespoir. Il faut se plaindre devant Dieu. De toute façon, nous sommes toujours devant Dieu, autant le faire volontairement. Il faut se plaindre devant Dieu, sachant que la façon dont nous allons formuler nos plaintes va nous rendre capables, si nous sommes dans l'esprit de l'Église, va nous rendre capables d'être exaucés et de passer de la plainte à l'action de grâce. Écoutez bien ce que dit cette oraison et méfiez-vous, mes très chers frères, dites-vous que lorsque quelque chose dans la liturgie ou dans la parole de Dieu est d'une simplicité enfantine et d'une clarté qui semble n'avoir besoin d'aucun commentaire, c'est qu'il faut prendre ces choses formulées ainsi d'une façon absolue. Orem tuam, quosumus domine, donc s'il vous plaît Seigneur, accommodez votre oreille, ouvrez grand vos oreilles, si j'ose dire, avec une confiance filiale. À quoi donc ? Precibus nostris. Oh tiens, à nos prières. Vous allez, oui, je comprends, on passait à autre chose, oui, nos prières, on prie, c'est. Non, 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 attendez. N'allez pas trop loin, n'allez pas trop vite. N'allez pas trop vite. Nos prières, qu'est-ce que c'est? C'est n'importe quoi qui sort de ma bouche? C'est une éructation de rage envers Dieu? Non, ça, c'est pas une prière, ça, c'est quelque chose de dangereux pour moi. Écoutez, grand, vos oreilles grandes ouvertes, nos prières. Soyez attentifs à nos prières. Nos prières, qu'est-ce que c'est? Une prière est ma prière dans la mesure où je fais mienne, où nous faisons nôtre, deux choses. Premièrement, les prières de l'Église, et deuxièmement, nous l'avons dit, celle des psaumes. Vous allez dire, oui, mais bon, ma prière, c'est ma prière, la prière de l'Église, c'est autre chose. Oui, mais justement, pourquoi ne sommes-nous jamais exaucés? Parce que nous prions notre petite prière à nous. Nos prières, voyez-vous, vous pensiez comprendre il y a un instant, mais écoutez bien, prêtez l'oreille, Seigneur, à nos prières. Nos prières, c'est les prières telles que l'Église nous les fait formuler. Pas tellement les formules de prière, même s'il faut connaître les prières des oraisons, etc., afin de savoir quoi dire et comment les dire, mais ce sont les prières qui sont essentiellement les prières de l'Église. Mais les prières de l'Église, qu'est-ce que c'est? C'est le corps mystique du Christ. Qu'est-ce que le corps mystique du Christ? Ben, c'est le Christ. Nos prières, ce sont ses prières. Nos prières, ce sont les prières du Fils éternel de Dieu. Vous allez dire, oui, donc du coup, ce ne sont plus mes prières. Qu'est-ce qui, j'en sais rien, moi, ce qu'il dit. Faisons très attention. Notre Père Saint-Augustin nous dit que le corps mystique du Christ a plusieurs membres, mais il n'a qu'une seule bouche. C'est-à-dire que tous les membres prient par la bouche du Christ. C'est lui qui se présente lui-même en oblation éternelle à notre Père, à son Père, qui est notre Père, et qui est toujours exaucé. C'est pour cela qu'il dit, je sais que vous m'exaucez toujours. Si nous voulons prier des prières qui soient entendues ou qui soient audibles par Dieu, par les oreilles grandes ouvertes et attentives de Dieu, si j'ose dire, il faut que nos prières soient les prières du Christ, il faut que les prières de l'Église, du corps mystique du Christ, soient nos prières. Vous voyez, nous pensions avoir compris nos prières et en réalité, ce sont nos prières et pas les nôtres. Vous voyez, nos prières en tant que chrétiens, et non pas nos prières en tant qu'êtres charnels livrés à la concupiscence. Ouvrez bien grandes vos oreilles, Seigneur, à nos prières, c'est-à-dire à ces prières que nous enseigne à prier l'Église. Je ne peux encore une fois que vous recommander, mes très chers frères, de vous familiariser extrêmement avec les oraisons collectes des messes tout au long de l'année. Il y en a un certain nombre, mais ne pensez pas que leur nombre est infini. Il y en a un certain nombre. Mais si nous les fréquentons, si nous les prions, si nous les ressassons, si j'ose dire, hein, dans le bon sens du terme, alors on va voir qu'en fait, il n'y en a pas beaucoup. Et que toutes sont capables d'être exaucées infailliblement. Il faut qu'elles soient nôtres, afin que nous puissions aujourd'hui, en ce troisième dimanche de l'Avent, dire, écoutez attentivement nos prières. Nos prières que Dieu écoute et qu'il veut exaucer, ce sont celles qu'il met dans notre bouche. Et c'est une promesse de l'Écriture sainte qu'il mettra lui-même ses paroles dans notre bouche. Donc voyez, Precibus Nostris, à nos prières, ce sont les prières de l'Église, ce sont aussi les prières des psaumes. Il faut absolument que le chrétien fréquente les psaumes et qu'il soit constamment en train de les prier. C'est ce que font les clercs lorsqu'ils récitent l'office, mais les chrétiens doivent aussi être constamment en train de réciter les psaumes, pas forcément selon l'office, parce qu'on n'a pas tous le temps de le faire, et puis chacun un peu chacun son état quand même, mais disons qu'il se trouve que les chrétiens doivent. Comment est-ce que les chrétiens pourraient-ils apprendre et connaître la vraie façon de parler à leur Père Céleste s'ils n'écoutent pas les paroles que leur Père Céleste même a fait mettre par écrit par David et les autres saints prophètes? Nos prières, ce sont donc les prières de l'Église, ce sont aussi les prières des psaumes. Si vous ne savez pas quoi prier, récitez un psaume. Vous allez dire, mais quel psaume? Je vous dirai, plus vous connaîtrez les psaumes, plus vous les réciterez, plus vous verrez qu'il y a un psaume pour chaque circonstance dans la vie. Et si vous ne savez pas quel psaume choisir, eh bien, si j'ose dire, et avec sans témérité, mais ouvrez le psautier et dites le psaume qui viendra, et vous verrez que ça sera le Saint-Esprit qui vous aidera si vous le faites dans un vrai esprit de piété, et pas par témérité, bien entendu. Nos prières. Vous voyez, écoutez les oreilles bien grandes, nos prières. En fait, nos prières, si nous osons dire à Dieu de les écouter avec une très grande attention, c'est parce que ce sont ses prières. Alors vous allez dire, oui, donc finalement, Dieu ne s'écoute que lui-même. Il ne s'écoute, en effet, il n'écoute que lui-même, et c'est pour cela qu'il met ses propres paroles dans notre bouche. Arrêtez d'être toujours mesquin et ingrat envers Dieu. Bien sûr que Dieu ne s'écoute que lui-même. Qui est-ce qu'il pourrait, qui est-ce, quelles autres paroles que les paroles même de Dieu sont dignes de rentrer dans les oreilles grandes ouvertes de Dieu? Soyons un tout petit peu raisonnables, mes très chers frères. Et ces paroles très dignes, Dieu, notre Père, les met dans notre bouche par l'intermédiaire de l'Église et de la parole de Dieu. Nos prières, ce sont ses prières, c'est pour cela que ce sont nos prières. Et ensuite, il nous faut, après avoir nous être approprié les prières de l'Église, de la liturgie et des psaumes, il nous faut formuler nos demandes en sachant deux choses. Premièrement, il nous faut savoir comment les exprimer, et deuxièmement, comment s'attendre à l'exaucement. Quand on prie, quand on demande quelque chose à Dieu, même lorsqu'on demande quelque chose à quelqu'un ici-bas sur Terre, il faut s'attendre à ce que cette personne nous réponde. Parfois, nous avons comme une idée que la personne ne nous dira pas oui, mais en même temps, si nous demandons quelque chose à quelqu'un de bien disposé et que nous n'attendons même pas ou que nous ne faisons pas du tout attention à sa réponse, la personne à mieux disposée ne va pas nous exaucer. Si le petit enfant dit à sa maman, « Maman, est-ce que s'il vous plaît, est-ce que je pourrais avoir un bonbon ?» Et que c'est le moment et que sa maman décide que c'est le bon moment. Si la maman va prendre le bonbon, va le lui donner en lui disant un petit mot gentil, en disant « N'oublie pas de faire ton signe de croix, de remercier le bon Dieu et ta maman », et que le petit enfant est déjà en train de penser à autre chose et qu'à la rigueur il est en train de partir, est-ce que la maman va courir après lui en lui disant « Bah attends, tu attends ton bonbon ?» Non, elle va dire « Bon, il n'avait pas envie de bonbon. » Est-ce que vous pensez que le bon Dieu, qui a absolument tout fait pour que nous nous retrouvions dans une situation où ses paroles, qui sont toujours infailliblement exaucées, se retrouvent dans notre bouche, est-ce que vous pensez que le bon Dieu va courir après nous si, après avoir fait tout cela pour nous, nous sommes négligents à attendre et à recevoir son exaucement? Bien sûr que non. Il a tout fait, il ne peut pas faire plus. Si j'ose dire, car s'il faisait autre chose, il encouragerait notre vice. Donc il nous faut formuler nos demandes, premièrement, en sachant comment les exprimer. Et c'est ce que saint Paul va nous enseigner. Écoutez bien, parce que tout est lié. Mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur en tout temps. Je le dis de nouveau, réjouissez-vous. Et puis il dit que votre modération, modestia vesta, que votre modération soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. On pourrait se dire, oui, ça n'a rien à voir. Attendez, attention. Déjà, c'est saint Paul. Donc nécessairement, ce n'est pas n'importe qui parle. Et ensuite, ce n'est pas saint Paul, c'est le Saint-Esprit. Réjouissez-vous dans le Seigneur en tout temps. Je le dis à nouveau, réjouissez-vous, que votre modération soit connue de tous les hommes. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que la modestie en général, la modestie du chrétien en général, ne s'accorde pas avec des paroles agressives, avec des gestes menaçants, avec des paroles ou des gestes de mépris, de haine, affectés vis-à-vis de, même de nos ennemis. Ce n'est pas la modestie requise du chrétien. Vous allez dire, est-ce que vous n'êtes pas en train de vous éloigner du sujet? On est en train de demander ici comment, de voir comment demander au chrétien. Justement, on est en train de voir comment demander, comment le chrétien doit demander au Seigneur. Le chrétien ne peut pas s'attendre à être exaucé si sa modération n'est pas connue de tous les hommes. Quel est le rapport? Si nous sommes, voyez-vous, tout est lié. Si nous sommes habitués à être agressifs envers les hommes, nous serons agressifs envers Dieu. Si nous sommes habitués à tenir des discours de haine et de mépris et d'agressivité envers nos ennemis, nous serons tentés de parler de la mauvaise façon à Dieu. Vous allez dire, oui, mais nos ennemis c'est une chose, et puis Dieu c'est un autre. Oui, mais voyez-vous, c'est comme je le disais la dernière fois, et à plusieurs reprises, dans les milieux traditionnalistes, à cause de ce que fait le gouvernement, bon, à tort ou à raison, Il se trouve que, après s'en être pris à la République, mais sans aller trop loin non plus, parce qu'on n'a pas envie d'avoir des procès et d'être fiché après, finalement, on est passé d'un discours, disons, de très grande récrimination envers les agissements de la République, à un discours contre les autorités et les supérieurs hiérarchiques dans l'Église. Bon, en tout cas, ce qui se considère l'Église, enfin, peu importe. Enfin, contre nous-mêmes. Vous voyez, ne croyez pas, mes très chers frères, que si vous êtes constamment dans une attitude d'agressivité envers nos ennemis, vous allez pouvoir acquérir les habitus qui vont vous permettre de vous adresser bien à Dieu. Si on est tout le temps en train de parler de la République comme de la gueuse, toutes ces expressions qui sont là, qui sont consacrées depuis un petit moment déjà, enfin depuis longtemps, si on parle constamment de nos ennemis en disant ces sales dégénérés, ces sales gauchistes putrides et autre chose, autres noms d'oiseaux comme cela, enfin ceux-ci sont peut-être les plus rigolos, les autres sont plus agressifs, croyez-vous que quand nous allons nous retrouver face à Dieu, nous allons lui parler sur le bon ton? Alors vous allez dire, justement, ce discours péchu va me faire faire des prières péchues. Et le résultat, mes très chers frères, on le constate partout, tout le temps, depuis très longtemps déjà, depuis des décennies. Le résultat, c'est que le ciel est de plomb ou d'airain. C'est-à-dire que personne au ciel ne nous exauce jamais. Plus nous sommes agressifs envers nos ennemis, donc envers Dieu, parce que nous le tenons un discours péchu, « Seigneur, détruisez donc ces sales gauchistes putrides, Seigneur, écrasez ces féministes dégénérés Personne ne répond. Et même il y a, par un certain côté, on serait même dans cette attitude-là, si on prend le temps de réfléchir deux minutes, on serait presque tenté par l'athéisme, en se disant « Mais finalement, si nous ne faisons pas nous-mêmes les choses, Dieu ne fait jamais rien. Et donc Dieu est impuissant, Dieu... Attendez, c'est nous qui sommes impuissants. Si nous ne sommes jamais exaucés, si nous ne voyons jamais personne être foudroyé, c'est parce que nous nous adressons mal à Dieu. Et nous nous adressons mal à Dieu parce que notre modération n'est pas connu de tous les hommes. Alors vous allez dire, ah voilà, non seulement il est quiétiste, mais en plus il est libéral. C'est-à-dire qu'il faut faire des bisous à tout le monde, il faut être gentil, il faut être modéré envers tout le monde, avec l'éducation nationale qui corrompt la jeunesse, voilà. Il faut dire, ah c'est très bien, c'est... Je vous laisse continuer ou je peux continuer? Que votre modération soit connue de tous les hommes. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est saint Paul, qui comme tout le monde le sait, est bien libéral. Donc, je plaisante bien entendu. Donc, saint Paul dit, réjouissez-vous en tout temps, c'est-à-dire, nous l'avons compris, mettez-vous dans une situation où vous puissiez obéir à ce commandement délicat, à observer la joie dans le Seigneur, que vous puissiez l'observer en priant de façon à être exaucé et avoir un sujet de réjouissance. Et pour cela, que votre modération soit connue de tous les hommes. Être dans la modération, ça ne veut pas dire approuver, ça ne veut pas dire faire risette à ceux qui sont les corrupteurs de l'enfance ou les ennemis de notre foi. Ça veut dire être maître de soi-même. Parce qu'une fois que, finalement, on a vomi ces injures, surtout sous pseudonyme et d'une façon relativement anonyme et loin des personnes en question, une fois qu'on a vomi ces injures, qu'est-ce qui reste? Une immense impuissance. Non seulement nous sommes totalement impuissants, mais notre modestie, notre modération n'est pas connue de tous les hommes. Puisque à la rigueur, à l'occasion, les hommes qui font des petites fiches sur tout le monde, comme vous le savez, nous retrouverons, nous punirons, et là, qu'est-ce que nous ferons? Eh bien, il se trouve que cette agressivité, ce mode péchu d'être chrétien, se révélera son fond. Vous voyez, la plupart du temps, lorsque les plus péchus d'entre nous se font taper sur les doigts, qu'est-ce qu'on voit? On voit des gens qui se roulent par terre en chougnant, en pleurant, en se plaignant et en disant « Ah, quand même, on attaque des gens qui écrivent, pourtant je n'ai fait que faire un poste, etc. » Oui, ben... assumez ce que vous êtes. Vous étiez tellement va-t'en guerre agressif. Assumez d'aller en prison. Assumez d'être battu par les communautés adverses. Assumez d'être attaqué en justice. Assumez tout. Ah oui, mais ça coûte de l'argent. Et puis en même temps, oui, ah bah oui, et puis en même temps, Dieu vous lâche. Parce qu'il vous laisse tout seul face à vos ennemis. Le problème, voyez-vous, c'est que Dieu ne peut pas être avec vous, puisque Dieu vous dit, par la bouche de l'apôtre, que votre modestie, que votre modération soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche, que votre modération soit connue de tous les hommes. Si votre modération n'est pas connue de tous les hommes, ne pensez pas que le Seigneur va vous suivre sur le champ de bataille où il ne vous a pas envoyé. L'agressivité, comme cela arrive souvent avec les petits chiens, l'agressivité n'est que l'envers de la faiblesse, de l'impuissance, mais aussi de la dispersion. La dispersion dans toutes sortes d'activités qui ne nous regardent pas et que le bon Dieu ne nous appelle pas à mener. Dès que les ennemis réagissent, vous voyez, on crie au scandale, à l'injustice. L'immodestie croit pouvoir jouir de l'impunité. Il faudrait ne pas être modéré et être connu comme vraiment des gens couteau entre les dents qui vont à l'attaque de la République. Mais attention, il ne faudrait pas que la République nous attaque. Eh bien, je vais vous dire, mes très chers frères, le bon Dieu n'est pas avec vous si vous n'êtes, si votre modestie, si votre modération n'est pas connue de tous les hommes. Allons plus loin. Nous sommes en train de voir comment nous mettre dans une situation où nous pouvons formuler nos prières d'une façon qui est audible par les oreilles grandes ouvertes de notre Père Céleste. Il faut savoir comment les exprimer, et on s'habitue à bien prier quand on est habitué à la modération dans les paroles, dans les actions et dans les pensées aussi. Celui qui est agressif envers les hommes va faire des prières péchues, et ces prières péchues, Dieu ne les écoute pas. Lorsqu'on se rue sur son chapelet, et puis qu'on a l'impression d'être en train de, je le répète souvent, c'est vrai, mais combien de fois je l'ai entendu? Je l'ai encore entendu il n'y a pas si longtemps. Qu'on s'imagine qu'on est en train, on est à la DCA, et puis qu'on est en train de tirer sur les avions et sur les chars, etc. Je vais vous dire tout simplement, au lieu de dire votre chapelet, allez jouer sur ces jeux vidéo qu'on a sur l'internet, où on peut faire des batailles de chars, etc. Comme ça, vous détendrez, comme ça. Et puis, vous ne profanerez pas le chapelet. Le chapelet, c'est pas une mitrailleuse Le chapelet, c'est une manière de progresser vers Dieu en se concentrant de plus en plus sur les mots qu'on dit. Ça n'a rien à voir avec une arme de destruction massive. Hein. Pauvre chrétien, pauvre catholique. Et quand je dis catholique, je mets quelques guillemets quand même. Donc, voyez, apprenons à être modérés, c'est-à-dire à avoir de la retenue et avoir de la maîtrise de soi, et nous saurons formuler à Dieu, aux oreilles grandes ouvertes de Dieu, des prières qui soient susceptibles d'être écoutées. Sachons aussi comment nous attendre à l'exaucement. Comment s'attendre à l'exaucement? Eh bien, en se réjouissant d'avance du parfait exaucement de nos prières. Celui qui aura prié des prières péchues en disant « Seigneur, envoyez le feu du ciel sur ces gens, sur ces sales gauchistes, sur le machin, le truc, quelques parades et autre chose », il attend. Alors, peut-être au début, il va se réjouir en disant « Voilà, j'ai tellement prié que je regarde la télévision, je vais attendre, et sans doute la terre va s'ouvrir et que toute la farandole va s'écraser dedans. » Il va être englouti. Et finalement, il ne se passe rien. Une fois, deux fois, trois fois. Au bout d'un certain temps, on se dit, bon, je me demande si ça vaut la peine de prier, parce que le bon Dieu ne fait jamais rien. Nous ne pouvons pas nous réjouir d'avance si nous donnons, nous croyons, nous forçons la main à Dieu. Nous nous réjouissons d'avance, lorsque les auteurs nous apprennent à nous réjouir d'avance, avant même d'avoir obtenu l'exaucement, c'est qu'ils nous enseignent à accepter d'avance tout exaucement de Dieu, soit affirmatif, soit négatif, c'est-à-dire si Dieu dit oui ou si Dieu dit non, que le nom de Dieu soit béni. S'attendre au Seigneur en se réjouissant d'avance du parfait exaucement de notre prière. C'est pour cela que saint Paul nous dit « Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. » Vous allez dire « Pourtant, je suis très inquiet, regardez, vous n'avez pas vu les informations, etc. » Oui, mais je les regarde, plutôt je les écoute, je les lis autant que vous. Et pourtant, autant que vous, quand même, enfin en tout cas les catholiques auxquels je m'adresse, après le commandement de « Réjouissez-vous dans le Seigneur en tout temps », il y a le commandement « Ne vous inquiétez de rien », un autre impératif. Vous allez dire « Mais c'est inquiétant ». C'est inquiétant, ça c'est vrai. C'est très inquiétant même, et je dirais même que c'est préoccupant. Ça c'est tout à fait vrai. Et pourtant, il ne faut s'inquiéter de rien. Vous allez dire « Donc du coup, on ne fait rien ». Attendez, attendez. C'est difficile d'être chrétien à notre époque. Hein. On a l'impression que la religion est mal faite. Mais c'est vous qui êtes mal fait, mes très chers frères. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos désirs à Dieu par la prière et la supplication accompagnée d'actions de grâce. Ce n'est pas de l'indifférence de ne s'inquiéter de rien, mais c'est une confiance parfaite en Dieu. Il y a des choses qui nous inquiètent, il y a des choses qui nous inquiètent et qui n'ont pas à nous inquiéter. Il y a des choses qui nous inquiètent et qui peuvent nous inquiéter parce qu'elles... Pourquoi ? Quelle est la différence ? Je m'inquiète parce que, je ne sais pas, parce que sur le littoral de, je ne sais pas trop quoi, de l'île de Bali, on construit en pagaille des je dis n'importe quoi, on construit des hôtels, et ça m'inquiète parce que le niveau de la mer qui monte, etc. Mais en quoi ça vous regarde ? Je m'inquiète parce que l'école à la maison semble devoir être interdite par le gouvernement, parce que l'éducation nationale va faire un tour de vis sur les catholiques. Et je suis chrétien, je suis un père de famille chrétien et j'ai des enfants. Alors là, effectivement, ça doit vous inquiéter. Vous pouvez, disons, ça doit vous préoccuper. Mais vous devez faire une confiance parfaite en Dieu. Vous voyez, c'est facile, c'est facile. Non, c'est pas facile, justement. C'est pour ça que c'est un commandement. C'est facile de faire confiance en Dieu et après quoi on fait ? Ça veut dire que vous n'avez pas fait confiance en Dieu. Parce que si vous faisiez confiance en Dieu, vous seriez dans une telle lutte contre vous-même que vous seriez exaucé. Si vous dites « je fais confiance en Dieu, mais enfin il faut quand même que je me bouge moi-même », alors vous dites quelque chose de partiellement vrai. C'est-à-dire que il faut, pour pouvoir être accepté par Dieu, il faut que notre prière soit formulée, soit déterminée d'une façon rationnelle. C'est-à-dire, il faut que nous déterminions d'une façon rationnelle ce dont nous avons besoin. « Seigneur, j'ai des enfants, je dois leur donner une éducation scolaire et autres. Seigneur, donnez-moi les moyens de le faire. » Vous voyez que tout s'y oppose. « Eh bien, Seigneur, j'ai confiance en vous, et je n'ai confiance qu'en vous. » Vous allez dire, oui, alors, et après ? Après, vous verrez. Oui, mais il ne se passe rien. Je prie, il ne se passe rien. C'est donc que vous priez mal, et que votre confiance n'est pas parfaite en Dieu. C'est donc que vous n'êtes pas dans la modération, c'est donc que vous vous inquiétez, vous faites tout à l'envers. Si on fait tout à l'envers systématiquement dans la religion, ne dites pas que c'est la religion qui marche mal. Dites que c'est vous qui pratiquez mal, et tout d'un coup, il vous restera la possibilité de bien pratiquer, donc de devenir normal. Faites connaître à Dieu ce dont vous avez besoin. On ne va pas dire « Oh Dieu, j'aurais besoin d'aller au sport d'hiver, j'aurais besoin… » Non, 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 j'ai besoin de quoi ? Je suis un père, j'ai besoin de nourrir ma famille, je suis une mère, j'ai besoin d'éduquer mes enfants, d'élever mes enfants, de transmettre. Je suis un prêtre, j'ai besoin de ci et cela pour paître le troupeau de Dieu, ainsi de suite, pour tout chacun selon son état. Faites connaître à Dieu en déterminant rationnellement ce dont vous avez réellement besoin et qui vous cause légitimement de l'inquiétude. Ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître à Dieu en toute chose vos désirs par la prière et la supplication, et par l'action de grâce. Vous voyez, mes très chers frères, c'est notre deuxième point. Nos prières dont il était question dans l'oraison, prêchez-vous nostris, nos prières qui sont en fait les prières de l'Église, les prières même du Christ, qui sont les nôtres, nos prières sont des actes de modération. Je veux dire, qu'est-ce que ça veut dire ? La modération, c'est la maîtrise de soi. Vous l'avez compris, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais je vous le dis de façon ramassée. La modération, on n'est pas modéré simplement quand on est un faible et qu'on se traîne par terre. On est modéré quand on est maître de soi. Quand on se laisse aller à éructer à la première information qui passe, on commence à vomir toutes sortes d'injures sur les gens, c'est pas être maître de soi, c'est être un imbécile. Vous voyez, je pense que tout le monde en convient, en tout cas tous les éducateurs. Donc, si vous êtes maître de vous-même, si votre modestie et votre modération est connue de tous les hommes, alors vos prières sont des actes de modération. Vous allez dire, qu'est-ce que ça veut dire précisément ? Je voudrais bien comprendre. Il est écrit que votre modération soit connue de tous les hommes, de point, le Seigneur est proche. Qu'est-ce que ça peut bien dire ? Soyez d'autant plus modérés que le Seigneur est proche. Il faut, mes très chers frères, spécialement aujourd'hui, parce que quand même on est plus proche de la fin que du début, comme dit saint Paul, il faut vivre avec la conscience du retour prochain du Christ, qui sera un jour terrible, mais un jour de joie ineffable pour les chrétiens, mais un jour terrible pour le reste du monde. Un jour terrible auquel il faut se préparer. Comment se prépare-t-on? Par le détachement. Comment se détache-t-on? En étant maître de soi. Ne vous inquiétez de rien. Littéralement, nihil solliciti sitis. Ne soyez dans la sollicitude pour rien. Si je paraphrase un petit peu. C'est-à-dire, Saint-Jacques, vous vous souvenez, Saint-Jacques nous dit, vous demandez, mais vous n'obtenez pas, car vous demandez de telle sorte à satisfaire votre concupiscence. Combien de chrétiens prient et n'obtiennent rien? Combien de chrétiens prient du bout des lèvres, font des choses qui ne sont pas demandées par Dieu, obtiennent des choses et ne font qu'augmenter le chaos? Vous demandez, mais vous n'obtenez pas, car c'est pour satisfaire votre concupiscence. Saint Paul nous dit, faites connaître à Dieu vos désirs. Petitiones vestrae. Vos pétitions, vos demandes, je le répète, c'est-à-dire ce que la raison nous permet de demander, c'est-à-dire pour notre devoir d'État. Alors, véritablement, nous pouvons nous attendre à un exaucement. N'oubliez pas que nous sommes en train d'essayer de déterminer les conditions d'une prière et d'une façon générale d'une vie qui puisse être exaucée. Si nous formulons nos prières avec une grande maîtrise de nous-mêmes, c'est-à-dire que nous ne nous laissons pas aller dans la dispersion de la concupiscence, même la concupiscence prise même dans ses aspects militants, anti-tout. Hein. Alors ces demandes seront véritablement des demandes raisonnables qui auront une possibilité d'être exaucées parce que Dieu est fidèle. Dans l'oraison, l'exaucement est décrit par l'expression « gracie tue visitationis », la grâce de votre visitation. C'est-à-dire le fait que le Seigneur vienne et illumine notre esprit. C'est une illumination par la formation intérieure de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une vie méprisée. C'est un aspect des choses de la vie chrétienne, méprisée par le chrétien actif, entre guillemets, c'est-à-dire dispersée. Comprenez, mes très chers frères, ce que je veux dire. C'est qu'il y a une impuissance radicale à toute action désordonnée. On blasphème parce qu'on méprise l'imitation réelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Combien de fois entend-on dire aujourd'hui, de nos jours, enfin, depuis un certain temps, autrefois on pouvait peut-être se sanctifier avec l'imitation de Jésus-Christ et puis donc avec le livre, hein, l'imitation et son missel. Aujourd'hui, il faut des tonnes de livres, des rayonnages entiers de bibliothèques, comme ça, pour militer, pour savoir, pour tout être. Non, en réalité, non, pas du tout. Je ne dis pas que les circonstances n'ont pas changé par rapport à autrefois, sous un certain rapport, mais d'une certaine manière, le chrétien reste le chrétien, et la méthode reste la même méthode. De toute façon, je vais vous dire, si c'est une nouvelle méthode qui était nécessitée par les circonstances, maintenant que ça fait bien 50 ans de militance derrière nous, on s'aperçoit que cela mène à un néant absolu de tout effet positif. Et qu'à chaque génération, si on peut dire, c'est les générations se défilent de plus en plus rapidement, chaque génération, il faut absolument tout recommencer depuis le début, et tout est recommencé par le début, par des gens qui méprisent à totalement ce qui s'est fait juste avant eux, à la génération précédente. Donc si c'est vraiment ça la marche à suivre, si elle vient de Dieu, que Dieu nous garde, si elle vient de Dieu, c'est que vraiment, de là-haut, on nous raconte, on nous prescrit n'importe quoi, si elle vient des hommes, ce qui est beaucoup plus probable, ça veut dire que, en fait, nous sommes conduits, ou ces gens-là sont conduits par des aveugles, qui guident des aveugles, attention à la fausse. Donc, il se trouve que, mes très chers frères, nous devons comprendre que nous ne sommes exaucés, nous ne sommes jamais exaucés, que dans la mesure où Dieu nous visite par sa grâce, en faisant croître en nous notre Seigneur Jésus-Christ. Vous allez dire, oui, mais j'ai besoin d'être exaucé, regardez mes enfants, l'école à la maison, les choses, le travail, etc. Vous avez raison. Mais tout ceci obtiendra l'exaucement que vous attendez dans la mesure où tout est ordonné à la croissance du Christ en vous. Alors vous allez dire, mais c'est une sorte de nombrilisme spirituel. En effet, il faudrait faire attention que, parce que ça pourrait être un piège, effectivement. Mais si nous nous concentrons, chacun de nous, sur nos devoirs, et nos devoirs nous mettent toujours en lien avec les autres. Vous voyez, je suis père de famille, mon devoir s'exerce envers ma profession, mais surtout envers ma femme et mes enfants. Si je suis prêtre, envers mon troupeau. Si je suis mon évêque, si je suis évêque, envers l'Église, le pape, etc. Bon, le concile. Si je suis ceci et cela, vous avez compris. Si nous voulons éviter le nombrilisme spirituel, ce qui est une erreur, nous devons nous concentrer sur l'aspect, disons, sur l'aspect de notre devoir qui nous met en lien avec avec notre prochain et spécialement avec ceux de la famille de Dieu. C'est-à-dire nos frères. Si nous voulons être exaucés, il nous faut véritablement, mes très chers frères, nous concentrer sur notre devoir, sachant que notre devoir nous fait croître, l'exercice de notre devoir nous fait donc rendre service à notre prochain, c'est vrai, mais aussi nous fait croître, et c'est là l'intérêt particulier que nous avons pour nous, et ce n'est plus du nombrilisme spirituel, c'est véritablement de la croissance spirituelle, et donc c'est l'accomplissement pour chacun de nous de la volonté de Dieu, nous croissons à l'image du Christ. Toute demande que nous faisons monter vers Dieu doit donc procéder d'une analyse rationnelle de ce dont nous avons besoin selon notre devoir d'État. Et tout exaucement que nous attendons de Dieu doit toujours être en lien, au moins implicitement, mais enfin de temps en temps il faut en être conscient de façon vive, si j'ose dire, tout est en lien avec la croissance du Christ dans notre cœur, notre croissance selon en fonction de la stature, jusqu'à la stature parfaite du Christ. Qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire que si nous devons nous attendre à être exaucés, nous devons nous attendre que cet exaucement nous fortifie spirituellement. Nous ne devons pas simplement, le père de famille ne doit pas simplement dire « Donnez-moi un travail, mon Dieu, faites-moi trouver un travail afin que je puisse nourrir ma famille. » C'est très bien, c'est une prière c'est une bonne prière rationnelle qui peut être exaucée. Mais il doit se souvenir que, en nourrissant sa famille et en élevant ses enfants, il grandira dans le Christ. S'il n'est pas intéressé par la vie spirituelle, comment peut-il réellement s'attendre à être exaucé? Alors vous allez dire, c'est cruel ce que vous dites, parce qu'au moins il demande quelque chose de bien. Oui, mais le problème, c'est qu'il demande partiellement quelque chose de bien. Le petit enfant de tout à l'heure qui demandait un bonbon, il a demandé avec le bon ton, au bon moment, à sa maman qui était bien disposée. Et puis il est parti. Il fallait persévérer dans la bonne attitude, il fallait persévérer dans la patience, et attendre le temps que sa maman le lui donne. Ce n'est pas parce que partiellement ce que nous demandons à Dieu est bien, est bon et légitime, qu'il faut sabrer le reste. Voyez-vous? La prière doit être donc rationnelle et reconnaissante. C'est pour cela que saint Paul nous dit « Faites connaître toutes choses à Dieu dans la prière et la supplication accompagnée d'actions de grâce. » Alors, rapidement, la prière et la supplication. Il faut frapper à la porte de Dieu sans se lasser. Il faut prier sans se lasser. Vous allez dire, on dirait que des fois j'ai l'impression que Dieu est cruel. Il nous laisse dans une situation. Pourtant, je le prie. Alors, est-ce que vous êtes certain de prier de la bonne façon? Bah, quand même. Est-ce que vous êtes certain vraiment de prier et d'être... que votre prière est pure. Il me semble, mon Dieu, aidez-moi. Alors ça veut dire simplement qu'il vous faut persévérer. Vous allez dire, mais pourquoi est-ce que Dieu ne peut pas m'exaucer tout de suite? Parce que premièrement, ce n'est pas le temps de Dieu. S'il ne vous exauce pas tout de suite, c'est que vous n'avez pas besoin d'être exaucé tout de suite. Je veux dire, c'est cruel. C'est pédagogique. Et souvent, la pédagogie est cruelle, semble cruelle, mais c'est relatif. Lorsqu'un professeur met un zéro à un enfant... Est-ce que c'est cruel, le petit enfant est vexé, mais en même temps, s'il imitait 20 sur 20 et que sa copie vaut zéro, est-ce que ce ne serait pas ça la vraie cruauté? Dieu n'est jamais cruel. Dieu est notre Père très sage et nous sommes ses enfants très écervelés. Il faut demander à Dieu, si vous êtes certain que ce que vous demandez est légitime, avec le bon ton, avec la bonne perspective, dans la bonne perspective de votre sanctification, alors ça veut dire simplement qu'il faut continuer à frapper sans se lasser à la porte du bon Dieu. Parce que la reconnaissance vient du fait que nous avons conscience d'avoir eu vraiment besoin de Dieu et d'avoir vraiment besoin de Dieu. Si Dieu nous exauçait instantanément, nous pourrions finalement nous dire que dans le fond, nous savons comment nous y prendre pour être exaucés. Mais si il nous semble que nous faisons tout pour être exaucés et que Dieu ne nous exauce pas, Il se trouve que nous sommes conduits à dire, vraiment, si Dieu m'exauce, ce n'est pas à cause de mes mérites, mais c'est vraiment parce qu'il est bon. Et Dieu est bon. Voyez-vous, mes très chers frères, il faut que nous fassions connaître à Dieu nos désirs par la prière et la supplication accompagnées d'action de grâce. La meilleure façon de manifester cette action de grâce, c'est immédiatement après avoir prié une prière d'une manière ou d'une autre, une telle ou telle sorte de prière, après avoir prié une prière pour obtenir quelque chose de légitime, dire le Magnificat. On ne peut pas se contenter de dire « Ah, j'ai fini de prier, bon ben merci mon Dieu, j'ai confiance ». Non, non, oui, ben, ça c'est pas bien, ça c'est trop familier. Dire le Magnificat. Vous allez dire, mais le Magnificat, c'est la prière de la Sainte Vierge qui a reçu de devenir la mère de Dieu. Toutes nos prières ont pour but la visitation, l'illumination intérieure de la grâce de Dieu, c'est-à-dire la formation de notre Seigneur Jésus-Christ dans notre cœur. Donc, chaque fois que nous demandons quelque chose à Dieu, il faut dire le Magnificat pour terminer, et surtout avant même d'en avoir vu le début même de l'exaucement, parce que si nous remercions de tout notre cœur juste après avoir demandé, nous serons capables de recevoir ce que Dieu veut vraiment nous donner, nous serons capables d'être reconnaissants s'il dit oui et s'il dit non. C'est pour cela qu'il est écrit dans le verset graduel, « Vous qui siégez sur les chérubins, Seigneur, mettez en œuvre votre puissance et venez. » Si vous voulez que notre Seigneur vienne, mettre en œuvre sa puissance et vous exauce, alors il faut qu'il siège sur les chérubins. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que Dieu ne déploie sa puissance qu'assis sur les chérubins, c'est-à-dire que du haut, parce que lui sommes soumis, et il est sur nous, du haut d'une vie ordonnée. La vie ordonnée, c'est-à-dire la vie chrétienne qui suit et qui se cantonne à ses devoirs d'État, qui suit ses devoirs d'État et qui s'y cantonne, la vie chrétienne ordonnée est le support de la gloire divine. Évidemment, je vois des gens qui haussent les épaules ou les sourcils en disant « Oh, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est pas un peu grandiloquent ?» Disons plutôt que quand on voit les fruits totalement nuls, d'impuissance radicale et pitoyable, d'une vie désordonnée, par comparaison, on se dit que si Dieu refuse tout exaucement de quelque ordre que ce soit au désordre, ça veut dire qu'il accorde tout exaucement de quelque ordre que ce soit à l'ordre. Donc, Dieu ne déploie sa puissance qu'assis sur les chérubins. Et si vous vivez une vie ordonnée, mes très chers frères, Dieu déploiera sa puissance. Si vous vivez une vie désordonnée, vous pouvez toujours taper à la porte du bon Dieu, il ne vous écoute pas. C'est pour ça qu'il est écrit aussi, « Qui régisse Israël, intendez, qui régisse Velutovem Yosef, pasteur d'Israël, prêtez l'oreille, vous qui guidez Joseph comme un berger sa brebis. » Notre Seigneur ne nous guide que dans... Il ne guide qu'Israël. C'est-à-dire, Dieu ne nous guide que dans l'Église. Il ne guide que l'Église, en général et en particulier, dans tous les chrétiens, et non les initiatives individuelles qui sont dépourvues de légitimité parce qu'ils sont faits par les défenseurs de l'Église qui, par nature, sont à l'extérieur de l'Église. Vous ne pouvez défendre l'Église que si vous êtes à l'extérieur. Vous ne serez donc pas exaucé, et tout ce que vous ferez n'est qu'une perte de temps absolue et un déploiement, si j'ose utiliser un paradoxe, un déploiement d'impuissance. Vous voulez être exaucé, vivez une vie ordonnée, que Dieu puisse régner sur votre vie comme il trône sur les chérubins. Dans l'introïte et dans l'offertoire, voici ce qui est dit. Vous avez, Seigneur, béni votre terre, vous avez délivré Jacob de la captivité. Dans l'offertoire, il est dit, vous avez béni, Seigneur, votre terre, vous avez délivré Jacob de la captivité, vous avez ôté l'iniquité de votre peuple. La bénédiction de la terre, ici, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, le bon semeur, semant le bon grain dans la bonne terre. La bonne terre, qu'est-ce que c'est ? C'est l'ordre. Je ne vais pas répéter. Vous avez détourné la captivité de Jacob. Qu'est-ce que c'est ? Vous avez délivré de Jacob de la captivité. Vous l'avez fait revenir de la captivité. C'est la concentration qui s'oppose à la dispersion dans la concupiscence. Avertisti. Rémesisti, vous avez ôté l'iniquité de votre peuple. Tout exaucement est avant tout le pardon des péchés qui ont placé le chrétien dans la tribulation. Alors vous allez dire, mais le saint homme Job, vous êtes Job? Non. Alors ça veut dire que, d'une manière ou d'une autre, je parle pour moi en premier, bien entendu, chaque fois que nous sommes dans une situation difficile, dans laquelle une sorte de tribulation dans laquelle nous devons nous tourner vers Dieu, c'est que d'une certaine manière, nous l'avons mérité. Soyons très humbles, soyons honnêtes, soyons objectifs. Nous parlions d'objectivité, la connaissance objective de soi-même dimanche dernier. Soyons honnêtes, si nous sommes dans une situation pénible, c'est que nous l'avons, d'une manière ou d'une autre, ou bien provoquée, ou bien méritée. C'est notre faute. C'est pour ça que nous disons, c'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma très grande faute. C'est pas la faute de l'autre, c'est pas la méchanceté des hommes, c'est pas les gens qui m'ont mal compris, c'est que je me suis mis dans le pétrin tout seul. Donc, vous voyez, il nous faut prier pour recevoir les exaucements dont nous avons besoin pour nos divers devoirs d'État, mais toujours dans une perspective aussi de demander pardon à Dieu pour nos péchés qui nous ont mis dans l'impossibilité souvent ou dans la gêne par rapport à la réalisation de notre devoir d'État à la gloire de Dieu. Alors terminons en voyant les conditions, la condition pour être exaucé. Eh bien, mes très chers frères, elle est là sous notre nez depuis tout à l'heure, si j'ose dire, mais peut-être que vous ne l'aviez pas remarqué. Elle est dans l'oraison. Prêtez l'oreille, Seigneur, à nos prières et venez par votre présence pénétrer de clarté les ténèbres de notre esprit. L'avez-vous vu, mes très chers frères ? Mentis nostre tenebras. Vous allez dire, c'est ça la condition pour être exaucé ? Confessez que notre esprit n'est que ténèbres, confessez que tout bien que nous faisons et que nous n'avons jamais fait vient de Dieu, et que tout le mal vient de nous, confessez la nécessité de la grâce pour chaque bonne action, à chaque instant de notre vie, c'est ça que désigne mentis nostre tenebras, les ténèbres de notre esprit. La condition pour être exaucé, c'est de se reconnaître pauvre, aveugle et nu, pour parler comme notre Seigneur dans l'Apocalypse. La condition pour être exaucé, mes très chers frères, c'est se reconnaître indigne d'être exaucé. La condition pour être exaucé, c'est d'appeler la lumière, non pas dans un lieu qui est dans la pénombre, mais qui quand même a certaines lumières, d'appeler la lumière dans les ténèbres. Confesser les ténèbres de son esprit, c'est ça la condition pour être exaucé. Si le petit enfant vient auprès de sa maman et lui dit « Maman, pourrais-je avoir un petit bonbon, s'il vous plaît ? J'en ai déjà quelques-uns. »« Ah, ben, tu en as déjà. Je ne vais pas t'en donner un autre. Mon Dieu, venez, venez m'aider. » Mais bon, nous avons monté une association là pour faire le coup de poing, etc. Ah bon, ben c'est très bien. Et vous n'avez pas besoin de moi alors. Oui, mon Dieu, donnez-moi des lumières. Mais bon, Dieu merci, la nature a fait de moi quelqu'un d'assez intelligent. Donc, ah oh, ben, vous êtes déjà intelligent. Vous n'avez pas besoin de mes lumières. Seigneur, mon esprit n'est que ténèbres. De moi ne vient que le mal. Et tout le bien que j'ai fait, toutes les œuvres de la foi qui manifestent que ma foi est vive, viennent de vous, Seigneur, par les mérites de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors vous allez dire, mais c'est du misérabilisme. On a vu beaucoup de choses aujourd'hui, hein, quiétisme, libéralisme, misérabilisme, non, ça c'est formidable. Misérabilisme, eh bien écoutez, si c'est du misérabilisme, c'est que, et comme c'est l'enseignement de la religion, probablement que vous êtes trop bien pour la religion, je vous propose simplement de trouver une autre religion. Je pense que ça serait beaucoup mieux, et puis vous édifierez beaucoup mieux les gens, les chrétiens, les pauvres chrétiens misérabilistes, libéraux et quiétistes, qui restent dans la religion et qui essayent d'en suivre les commandements avec l'aide de Dieu. Après tout, allez promener votre excellence ailleurs, si j'ose dire, que Dieu vous garde, bien entendu, mes très chers frères, si vous aviez cette tentation. Est-ce que c'est du misérabilisme que de dire à Dieu, de par le commandement de l'Église et l'enseignement de l'Église, « Seigneur, venez visiter de votre lumière les ténèbres de notre esprit » Non, mes très chers frères, c'est du misérabilisme pour le vieil homme. Le vieil homme, bien sûr, cherche une excuse pour rester orgueilleux. Et l'orgueil du vieil homme, c'est l'impuissance du chrétien. En toute supplication, avec prière et supplication, nous avons souligné ce mot supplication. Il faut supplier à Dieu. Alors vous allez dire, oui, mais on s'enfonce dans le misérabilisme. Oui, Seigneur, je vous supplie, moi qui ne suis que ténèbres, de venir m'illuminer de votre lumière. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est une prière qui sera infailliblement exaucée, plutôt qu'une prière qui dit, mon Dieu, je vous rends grâce que je ne suis pas comme les autres, sale gauchiste putride. Vous savez, on s'adapte hein, à l'époque. Si on dit, mon Dieu, ayez pitié de moi qui suis un pécheur, ne pensez-vous pas que nous en ressortirons justifiés, fortifiés, le Christ un peu plus formé en nous, un peu mieux formé en nous, et nous rendu plus aptes à vivre sous la motion même de ce Dieu qui siège sur les chérubins pour accomplir nos divers devoirs d'État à sa gloire et pour le bien de notre prochain, et spécialement de la famille de Dieu? Non, mes très chers frères, ce n'est pas du misérabilisme, c'est du bon sens. Ces supplications doivent être aussi un combat contre soi-même, contre son orgueil, contre sa suffisance, contre le désir que Dieu nous soit reconnaissant. Notre plus grand ennemi, mes très chers frères, c'est nous-mêmes. C'est la justice propre, c'est la crainte de paraître faible ou méprisable à nos propres yeux. Ce sont des causes d'absence d'exaucement. Reconnaissons que nous sommes pusillanimes. Nous avons commencé par ce mot, et ce mot se trouve dans l'antienne de Communion. Dites au pusillanime. Le pusillanime, c'est le peureux, le timoré. Vous allez dire, je ne suis pas un peureux, je ne suis pas un timoré. Vous êtes un peureux et un timoré dans la mesure où vous roulez des mécaniques sous l'effet d'une religion imaginaire ou de vos vertus propres. Vous n'êtes plus peureux et timoré dans la mesure où vous vous rendez compte et vous confessez que vous ne pouvez rien, mais en revanche que vous pouvez strictement tout par le Dieu qui siège sur les chérubins. Prenez courage, dites au pusillanime, prenez courage. Quand quelqu'un est relativement courageux et qu'on lui dit « prenez courage », il va se montrer offensé en disant « mais ça va, je suis courageux ». Et quand quelqu'un est vraiment dans un abattement total et qu'on lui dit « prenez courage car vous n'êtes pas seul », cette personne remonte la pente. Lorsqu'on dit aux chrétiens, un chrétien finalement un chrétien pusillanime, sans le savoir, un chrétien charnel, un chrétien désordonné, on lui dit « allez, prenez courage, vous n'êtes pas seul ». Oui, bah quand même, c'est quand même moi qui suis le moteur de toute l'action. Quand vous avez un vrai chrétien qui dit « Seigneur, ayez pitié de moi qui suis un pécheur, ayez pitié de moi qui ne suis que ténèbres, qui ne suis capable que de produire des œuvres mauvaises en les tirant de mon propre fond », si vous lui dites « prenez courage, voici notre Dieu qui viendra et il nous sauvera », et ce chrétien-là est un vase vide, capable d'être rempli de Dieu. L'autre est un vase rempli de toutes sortes de bric-à-brac dans lequel on ne peut plus rien mettre. Et c'est pour cela que Saint Jean-Baptiste, encore une fois, nous donne un enseignement fondamental. Il lui dit donc « Qui es-tu ?» Et que dit-il ? Il répond par des paroles de la plus grande humilité. En cela, sa modestie, sa modération était connue de tous les hommes. Je ne suis pas digne. Qui es-tu ? Je ne suis pas digne de dénouer le cordon de sa sandale. Notre Dieu viendra, dit l'antienne de communion. Voici notre Dieu qui viendra et il nous sauvera. Il ne viendra que dans un cœur humble, quand dans des cœurs contrits, des cœurs dépris d'eux-mêmes, vous voyez la fierté chrétienne là-dedans, il n'y a que... Ou bien vous avez la fierté chrétienne et vous êtes totalement impuissant, ou bien vous confessez votre néant et vous êtes fort de la force du Dieu qui siège sur les chérubins. C'est à choisir. Venez pénétrer de votre clarté les ténèbres de notre esprit. Les chrétiens ne sont forts, mes très chers frères, qu'à genoux. C'est une phrase qu'on retrouve souvent dans les livres de piété, mais elle est très vraie. Et elle est très vraie. Les chrétiens ne sont forts qu'à genoux. Il faut faire pénitence, mes très chers frères. Et c'est par la pénitence que nous confessons réellement et du fond de notre cœur et sans teinture d'amour propre, quand on persévère avec l'aide de Dieu, nous persévérons, que nous confessons que nous ne pouvons rien sans Dieu et que tout le bien que nous faisons, c'est Dieu qui le fait en nous. Cette prière de supplication, jointe à l'action de grâce, loin de toute publicité, loin de toute mise en scène, mes très chers frères, c'est cette prière-là qui sera exaucée. Et c'est pour cela que notre Seigneur, en ce jour joyeux du troisième dimanche après l'Avent, nous dit « Dites aux pusillanimes », c'est-à-dire « Dites à ceux qui auraient toute raison de désespérer d'eux-mêmes, prenez courage et ne craignez point, car voici notre Dieu qui viendra et il nous sauvera lui-même. » Que Dieu nous sauve, mes très chers frères, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Merci.